بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى شرح كتاب الصيام من منهاج سليك للشيخ العلامة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، سنذكر شيئا مهما إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Donc inshallah ta'ala, on va commencer le commentaire du livre de la porte du Ramadan, la porte du Ramadan inshallah ta'ala, du livre qui s'appelle Minhaj al-Salikin, qui est du Cheikh qui s'appelle Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Et avant cela, on va expliquer une chose qui est très importante, qui fait que si toute personne fait toute adoration, fait toute chose pour se rapprocher d'Allah, Jallahu A'ala, si cette chose-là n'est pas dans son adoration ne sera pas acceptée. On va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, les conditions d'une adoration, comme ont expliqué les savants. Donc le Cheikh dit, Ash-Shartu Al-Awwal, les ulama, lorsqu'ils ont étudié le Coran et la Sunna, ils ont vu que une personne, si elle ne réunit pas deux conditions, son adoration ne sera pas acceptée. Allah Jalla wa Ala dit: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Et quelle meilleure religion que la personne qui soumet sa face à Allah, c'est-à-dire en étant sincère, et qu'il est bienfaisant, c'est-à-dire en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première condition, أن تكون خالصة لوجه الله ليس فيها شرك فإن خالطها شرك بطلت أي العمل أو العبادة. La première des conditions, il faut que la personne, lorsqu'elle fait une adoration, lorsqu'elle fait quelque chose avec laquelle elle veut se rapprocher d'Allah, il faut qu'elle soit sincère pour Allah Jalla wa Ala. Il ne faut pas que de l'association rentre ou se mélange à son adoration. مثل الطهارة إذا خلطها حدث بطلت أي الطهارة. Comme l'exemple de la purification ou bien les ablutions. Si une personne a des gaz lorsqu'elle est dans la rue par exemple, ou si elle a des gaz, ses ablutions vont s'annuler. Et ça, c'est un exemple pour expliquer que si une personne commet de l'association ou mélange son adoration à de avec de l'association, son adoration ne sera pas acceptée, tout comme la personne qui aura fait une prière sans avoir les ablutions. Donc la première des conditions, parmi les conditions de l'adoration, c'est le fait d'être sincère pour Allah. Le fait de vouloir faire ceci ou cette adoration comme la salat, ou le fait de jeûner, ou le fait de faire n'importe quelle autre adoration que pour Allah Azza wa Jal, voulant se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Et la deuxième des conditions, c'est al-muta'aba'a, c'est-à-dire le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration. فَأَيُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة لأنها بدعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. C'est-à-dire que la deuxième condition parmi les conditions d'une adoration, c'est le fait de faire cette adoration comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a fait. Une personne qui fait n'importe quelle adoration ou qui veut se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala par n'importe quelle chose, si elle ne le fait pas comme l'a fait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son action sera une innovation. Elle sera donc rejetée auprès d'Allah jalla wa ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique et qui est rapporté par Muslimun rahimahullah, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de nos enseignements, elle est à rejeter. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de nos enseignements, elle est à rejeter. Et on vient de voir donc qu'une adoration, si elle n'a pas deux conditions, son adoration ne sera pas acceptée. Ces deux conditions sont la sincérité, et la deuxième condition est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des savants comme Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ont expliqué et ont dit que les gens ne sortent pas de quatre catégories de personnes en ce qui concerne les conditions de l'adoration. Soit la personne elle est sincère et elle fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette personne-là qui auprès d'Allah azza wa jal, son action sera acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ala lillahi dinul khalis. Yani, dans le sens du verset, appartient à Allah la religion sincère, dans le sens du verset. Et à partir de ça, la personne qui est sincère et qui fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son action est acceptée. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, c'est celle qui fait son action, son adoration sincèrement pour Allah. Il veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais cette chose-là, elle n'est pas faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite. Donc son action est à rejeter. Comme le hadith qu'on a cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de nos enseignements est à rejeter. Et ça, c'est qui? C'est l'innovateur ou l'ignorant. Un ignorant qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et qui ne sait pas que la chose qu'il fait ne fait pas partie des enseignements. L'ignorant, Inch'Allah, on le conseille. L'ignorant, on le conseille. Et Inch'Allah, il est excusé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre personne, c'est l'innovateur. Quelqu'un à qui on a ramené les preuves que cette chose-là est une innovation. Troisième catégorie de personnes, c'est la personne qui fait la chose comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, mais qui n'est pas sincère auprès d'Allah. Cette personne-là, bien qu'elle a fait la chose comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la chose, cette action-là, comme la salat, il fait exactement la même prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais il n'est pas sincère. Il veut par cela se rapprocher des gens, ou il veut que l'on dise un tel fait bien les choses, ou un tel il est assidu dans ses salats. Cette personne-là, bien qu'il ait fait son adoration, sa salat, pour, ou plutôt comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son action est donc rejetée. Et la quatrième des catégories des personnes que le cheikh a expliqué, c'est la personne qui ne fait pas la chose comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et en plus, il n'est pas sincère. Et parmi les personnes qui font les choses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne sont pas sincères, il y a les hypocrites qui, avec leur cœur, ne croyaient pas et qui cachaient leur mécréance et avec leur bouche disaient « La ilaha illallah ». Donc il est important, avant de commencer toute chose, de savoir est-ce que mon adoration est conforme à celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et est-ce que mon adoration, est-ce que je veux me rapprocher d'Allah, ou bien est-ce que je veux faire ceci, ou telle chose, ou telle adoration, afin que l'on dise, oh, un tel, il fait bien les choses, ou bien que je fasse pour cette adoration pour me rapprocher des gens. Et il faut savoir que si le shirk, l'association, la petite association se mélange à l'adoration, l'adoration ne sera pas acceptée. L'adoration ne sera pas acceptée. Et si la grande association se mélange à l'adoration que la personne aura faite, comme par exemple le fait de vouloir faire une invocation à quelqu'un qui est dans une tombe, en lui demandant de demander à Allah de lui ramener ou de lui donner un enfant, ou bien de le guérir de ses maladies, cette personne-là,
son invocation ne sera pas acceptée, en plus son adoration ne sera pas acceptée, et en plus toutes ses actions seront rejetées, toutes ses actions seront annulées. Allahu Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُحِيَّ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et certes, nous t'avons révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, c'est-à-dire les prophètes qui étaient avant toi, si tu fais une adoration ou si tu fais لَإِنْ أَشْرَكْتَ, si tu fais de l'association, nous allons effacer tes péchés, nous allons effacer tes bonnes actions. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. عمل هنا مفرد والمفرد المضاف يفيد العموم المفرد المضاف يفيد العموم لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Si tu fais de l'association, et là ce qui est voulu c'est de la grande association, nous allons effacer toutes tes actions. Pourquoi? Parce que là ce qui est voulu c'est l'ensemble, c'est l'ensemble de toutes les actions, parce que la règle prouve ou explique que المضاف المفرد المفرد المضاف يفيد العموم. C'est-à-dire que là, toutes les actions seront effacées. Une personne, si elle fait de la grande association, sort de l'islam. Et toutes ses actions, en plus, sont effacées. C'est pour cela que toute personne qui fait une adoration doit toujours se remettre en question. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. Auto-juge-toi avant que tu seras. حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Auto-jugez-vous, auto-jugez-vous avant que vous allez être jugé. Chaque personne doit se poser la question. Est-ce que je fais ça pour Allah? Est-ce que je fais ça pour que les gens disent que je fais ça bien? Ou bien que les gens disent que je fais de bonnes actions? Ou bien je fais ça pour me rapprocher d'Allah Azzawajal? Et la deuxième question que je dois me poser, c'est est-ce que je fais ça conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, Inch'Allah, on va commencer l'explication du commentaire de Minhaj al-Salikin, Kitabu al-Siyam. Qala rahimahullah ta'ala, ani Sheikh Sa'adi. L'auteur qui a écrit cette risala, ce livre, c'est Sheikh Sa'adi, qui était le professeur à Sheikh Muhammad bin Salah al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, Kitabu al-Siyam. الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال شارح هذه الرسالة وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في شرحه قوله الأصل فيه يعني الأصل في وجوبه هذه الآية من سورة البقرة وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله تعالى فليصمه أمر والأمر عند الأصوليين يفيد الوجوب الأمر يفيد الوجوب الأمر للوجوب. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد ذكر الله الصيام في آية أخرى كقوله تعالى والصائمين والصائمات. Donc le shir explique et dit que la base qui prouve que le jeûne du ramadan est obligatoire est le verset où Allah Jalla wa Ala a dit ô vous qui avez cru. Et comme ont expliqué les pieux prédécesseurs, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit dans un verset, dans le sens des versets, ô vous qui avez cru, ceci va engendrer soit un ordre ou va engendrer une interdiction. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit, c'est-à-dire qu'il vous a été rendu obligatoire le jeûne, le siyam, le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous le craigniez. Et donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a expliqué et a dit que la cause pour laquelle la personne est obligée, pour laquelle Allah Jalla wa Ala a légiféré le jeûne du mois du Ramadan ou le jeûne, c'est pour le craindre. La'allakum tattaqoun, pour que vous le craigniez. Et c'est pour cela que certains salafs disaient que si une personne, si tu veux voir si ton jeûne a été accepté ou pas, il faut que tu voyes si tu es mieux après ton jeûne du Ramadan qu'avant ton jeûne du Ramadan. والواجب هو صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام لأن الله جل وعلا خصه بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. Donc l'obligation du jeûne du Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam, parce qu'Allah عز وجل a dit dans le sens des versets, le mois du Ramadan, c'est au mois du Ramadan que le Coran a été révélé, a été descendu. Et tout ce qui est en dehors du jeûne du mois du Ramadan est préférable. Et donc préférable. Et comme vous le savez, chaque adoration a des conditions. Chaque adoration a des conditions. La personne qui fait la salat sans les ablutions, sa salat ne sera pas acceptée. Et là, le jeûne aussi a des conditions. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. Il est donc obligatoire de jeûner le mois du Ramadan pour chaque على كل وكل يفيد العموم على كل على كل مسلم à chaque musulman. Donc il est obligatoire de jeûner le mois du Ramadan pour chaque musulman. Ensuite le cheikh a expliqué. Il dit, الشرط الأول الإسلام. La première des conditions est l'islam. La première des conditions est l'islam. الوجوب يختص بالمسلم فلا يجب على الكافر. L'obligation est spécifique pour le musulman. Il n'est donc pas obligatoire pour le mécréant de jeûner. Il n'est pas obligatoire de jeûner. Mais si une personne se convertit, comme il expliquait Ibn Taymiyyah rahimahullah, si une personne se convertit au milieu de la journée, on lui dit qu'il est obligatoire de finir la journée en état de jeûne, on lui dit qu'il est obligatoire de finir la journée en état de jeûne, mais qu'il ne sera pas obligé de rattraper un jour. Il ne sera pas obligé de rattraper un jour. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a ordonné que l'on jeûne une journée complète. S'il finit sa journée en état de jeûne, après qu'on lui demande de rattraper en plus un jour, là, il aura jeûné, par exemple, de 14h à 20h, enfin 6 heures, plus une journée. Pourtant, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de jeûner un jour, et non pas un jour plus quelque chose. Donc, la personne qui se convertit à l'islam, comme il expliquait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on lui demande de compléter sa journée en état de jeûne, et ensuite, il n'est pas obligé, ou plutôt, on ne lui demande pas de rattraper un jour. ولم يثبت عن طريق il n'a pas été il n'est pas venu يعني chez le auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam انه كان امر من اسلم بقضاء ما فاته من الايام. Il n'est pas venu en ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ordonnait la personne qui se convertissait à l'islam de rattraper les jours qu'il n'avait pas jeûné. الشرط الثاني البلوغ قوله بالغ. En ce qui concerne البلوغ, le fait d'être pubère, le fait d'être pubère. La personne qui est pubère, ou qui n'est pas pubère plutôt, elle n'est pas obligée de jeûner. Mais ses parents sont obligés de lui ordonner de jeûner, si elle est moumayise, c'est-à-dire qu'elle arrive à différencier les choses. Cette personne qui est enfant. Cette personne qui est enfant, les parents doivent lui demander de jeûner. Pourquoi ? Afin de l'habituer à jeûner. Ça, c'est un avis parmi les avis. Et d'autres savants ont dit, وَلَكِنُ دَرَّبَ عَلَيْهِ. C'est-à-dire qu'on doit l'habituer à jeûner. فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّغِيرِ دُونَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَلَكِنُ دَرَّبَ عَلَيْهِ وَبِالْأَخَاصِ إِذَا قَرَّبَ Minelbulur. Donc on doit lui demander de jeûner afin qu'il s'habitue à jeûner. Et là, en ce qui concerne l'enfant qui devient pubère au milieu de la journée du Ramadan, c'est exactement la même chose que la personne qui se convertit. C'est-à-dire qu'on lui demande de finir son jour de jeûne, mais on ne va pas lui demander de rattraper un jour pour le... On ne va pas lui demander de rattraper le jour, les jours qu'il n'avait pas jeûné pendant le Ramadan, ainsi que le début de sa journée. Ensuite, la troisième des conditions, parmi les conditions qui rendent obligatoire à la personne qui a ces conditions de jeûner, c'est le fait d'avoir la raison. Al-shartu al-thalif al-aql. Al-aql. Fala yajibu ala al-majnun likawnihi laysa lahu aqlun yuhjizuhu an al-mufaddirat. Donc il n'est pas obligé à la personne qui est folle. Qui est folle, c'est-à-dire qui n'a pas de raison. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, elle va commencer à boire, elle n'a pas la raison. Elle ne sait pas que ce qu'elle fait, c'est mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rufi'a al-qalamu an thalath » La plume a été levée pour trois personnes. Et parmi ces trois personnes, il y a la personne qui est folle, qui n'a pas sa raison, jusqu'à ce que sa raison revienne. « Fa'idha janna jami'u nahar » لا يصح صومه ولا قضاء عليه كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله. Donc si cette personne là n'a pas sa raison du début du jour jusqu'à, par exemple avant le fajr, il n'a pas la raison jusqu'au maghrib, cette personne là on ne va pas lui demander de rattraper un jour, et son jeûne, si elle le jeûne, n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'intention. La personne qui est folle, la personne qui n'a pas de raison, comme elle n'a pas de raison, elle n'a pas d'intention. Et il est obligatoire de mettre l'intention pour le jeûne du Ramadan. Et les ulama ont fait un qiyas, c'est-à-dire ils ont fait une analogie avec la personne qui n'a pas de raison. Ils ont dit la personne qui alladhi urmiya alayhi, la personne qui s'évanouit. La personne qui s'évanouit, ou la personne qui s'évanouit par exemple, si elle s'évanouit un court instant de la journée, ils ont dit qu'on fait une analogie avec la personne qui est endormie. C'est-à-dire que si une personne dort pendant le jour du Ramadan, son jeûne est valide. Même si elle jeûne toute la journée, bien qu'elle aura manqué beaucoup de choses et beaucoup d'adorations pendant son jeûne du Ramadan. Alors la personne qui s'évanouit pendant le Ramadan, un court instant, ou quelques heures pendant son jour du Ramadan, son jeûne est valide. Contrairement, si cette personne-là qui s'évanouit, elle s'évanouit avant Soubh et elle reprend ses esprits après le Maghrib, donc elle se sera évanouie toute la journée, son jeûne n'est pas valide. Son jeûne n'est pas valide et elle doit rattraper un jour. Et là, on fait une analogie avec la personne qui n'a pas de raison. Ma foum il est là, c'est compris, hein. C'est clair. Ashartu rabi'a. La quatrième des conditions, on a vu qu'il fallait que la personne soit musulmane. Il fallait que l'on voit que la personne, il faut qu'elle soit musulmane, pour qu'on lui dise que c'est obligatoire pour toi de jeûner. Ensuite, on a vu que la personne, il faut qu'elle soit pubère. Si elle n'est pas pubère, son jeûne est accepté, mais c'est un jeûne qui est accepté comme si elle avait fait quelque chose de surérogatoire. Ensuite, si elle jeûne, la troisième des conditions, il faut qu'elle ait sa raison. Si elle n'a pas de raison, son jeûne n'est pas accepté. La quatrième des conditions, c'est la personne qui n'a pas les capacités de jeûner. Et qu'elle mérite, wa nahwi, min al-ma'adhurin, la yajibu alayhim al-siyam, wa in kana yajibu alayhim al-qada, ou al-fidya. Al-qada, in kana yajibu alayhim al-qada, ou al-fidya. Donc là, la quatrième des conditions, parmi les conditions qui rendent obligatoire la personne, si elle rentre dans toutes ces conditions-là, qui rendent obligatoire le fait de jeûner, c'est le fait d'être capable de jeûner. C'est-à-dire que si une personne est malade, et après, Inch'Allah, on va voir en combien se divise, ou plutôt on va voir les catégories des personnes qui sont malades. Si une personne est malade, elle rentre dans le verset où Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla wa Ala dit « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » Et si l'un d'entre vous est en voyage ou est malade, il devra rattraper un jour. C'est-à-dire qu'il est autorisé de ne pas jeûner. Mais il y a des conditions. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle maladie qui fait que la personne a le droit de ne pas jeûner. A le droit de ne pas jeûner. Ensuite, le shir dit ويجب تبييت النية للصيام الفرض فقد ورد حديث عن حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له الحديث اللي rapporté par Abu Daoud رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنان الترمذي. Donc il est venu dans un hadith où une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hafsa, elle a dit que le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne met pas l'intention la nuit, c'est-à-dire la nuit qui précède le jour que l'on va jeûner, celui qui ne met pas d'intention cette nuit-là pour son jeûne, il n'aura pas de jeûne. C'est-à-dire que son jeûne ne sera pas valide. والصحيح أنه يكفي أن يقوم للسحور فقيامه للسحور نية وقيل أيضا يكفي لرمضان نية واحدة لأن المسلم ما دام مقيما وسليما فإنه لا يظن به أن يترك الصوم. Donc là on va expliquer ce qui se rapproche à ce sujet là. C'est-à-dire le fait de mettre l'intention la nuit. Premièrement, le shir explique et dit que ce qui est authentique, c'est qu'il est autorisé de mettre l'intention, ou plutôt l'intention, il est autorisé, ou il suffit de se lever le matin pour le sahur, c'est-à-dire pour le repas que l'on va prendre le matin. Pour le repas que l'on va prendre le matin avant le fait de manger. Et il est venu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tasahharu fa inna fi sahuri baraka ». Et ça ensuite on va expliquer, Inch'Allah. Prenez le repas du matin, car il y a une bénédiction dans ce repas. Il est donc autorisé, ou il suffit juste que la personne se lève le matin, et cela va prouver son intention, sa volonté de jeûner ce jour-ci. Si toi tu te lèves le matin, ça prouve que tu vas te lever pour manger, et que par exemple habituellement tu ne te lèves pas le matin, cela prouve que toi, ton intention c'est de jeûner. Donc si toi tu te lèves le matin, ça suffit. Maintenant l'intention ne se fait pas avec la bouche. L'intention ne se fait pas avec la bouche. C'est-à-dire que nous on ne va pas dire « je mets l'intention de jeûner le mois du Ramadan ». Ceci est une innovation. Ce n'est jamais venu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il mettait l'intention pour faire n'importe quelle adoration. Parmi toutes les adorations, sauf certains savants qui ont dit pour le hajj, c'est autorisé. Mais en ce qui concerne le jeûne, ou par exemple la salat, tu ne viens pas et tu dis, par exemple, je mets l'intention de faire 4 rak'ah pour Al-Asr. Non, ce n'est jamais venu. Mais l'intention se fait dans le cœur. Et il est obligatoire, comme on a vu auparavant, de mettre l'intention. Il est obligatoire de mettre l'intention. Maintenant, l'intention se met dans le cœur. Et comme il a expliqué Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le fait de mettre l'intention avec la bouche, c'est une innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Même si moi je viens, je dis que je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal en disant ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit ou ne l'a pas fait, c'est que ce n'est pas un bon chemin. Car tous les cheminements qui nous emmènent vers le bien, ils ont tous été déjà dit, ils ont tous été déjà légiférés. Car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Dans le sens des versets, j'ai parachevé pour vous aujourd'hui votre religion. Donc celui qui va venir avec quelque chose après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne fait pas partie des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, c'est une chose qu'on doit rejeter. Comme on l'a dit précédemment, celui qui fait une action, parmi les actions, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de nos enseignements, elle est à rejeter, elle ne sera pas acceptée. Donc le fait de faire l'intention avec la bouche, ce n'est pas quelque chose qui a été légiféré. On met donc l'intention dans le cœur. Et il dit, وَقِيلَ أَيْضًا يَكْفِي لِرَمَضَانَ نِيَةٌ وَاحِدَةٌ. Il est autorisé, ou il suffit, de mettre une seule intention pour tous les jours du Ramadan. Comme il expliquait Ibn Taymiyyah rahimahullah. Là, Sharih, c'est-à-dire la personne qui explique le texte de Sheikh Sa'adi, qui est Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Jibrin, rahimahullah ta'ala, qui est décédé il n'y a pas encore très longtemps, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la communauté, et ainsi qu'à tous les musulmans, qu'ils soient morts ou vivants, a expliqué et a dit qu'il était autorisé de mettre une seule intention pour tout le mois du Ramadan. Bien que le hadith, il dit, celui qui ne met pas l'intention la nuit, il n'aura pas de jeûne. Fala siyama lah. La siyama lah. Et comme il expliquait Ibn Qayyim rahimahullah, la siyama lah est shar'iyyan. C'est-à-dire que un nakira fi siyaq an-nafi tufid al-umum. Umum as-siyam. Ghayr maqbulin 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, la salata bima lam yaqra bi umm al-kitab. Pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Donc celui qui fait l'imam et qui ne récite pas la Fatiha, sa prière ne sera pas acceptée. Là, c'est exactement la même chose. Celui qui ne met pas d'intention pour son jeûne ne sera pas accepté. Et l'intention, elle doit toujours être pour qui? Pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui met une intention pour autre qu'Allah, son jeûne ne sera pas accepté. Donc là, il te suffit de mettre une intention pour tout le mois. Comme il expliquait Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il a expliqué, il a dit, c'est exactement la même chose que le hajj. Lorsqu'une personne va faire le hajj, elle met l'intention au début de son hajj. C'est-à-dire que si elle est yawm talwiya, yawm thamin, min dhul hijjah, le huitième jour de dhul hijjah, si elle vient, elle va commencer, par exemple, elle fait le hajj en mufrag, c'est-à-dire qu'elle fait que le hajj, pas de umra avec, ou bien qu'elle fait le tamattu', elle a fait sa umra, ensuite, arrivé le huitième jour de dhul hijjah, elle va commencer son hajj. Là, ce qui est légiféré dans la sunna, c'est de dire « Labbaik Allahumma bihajj » ou « Allah me voici » pour faire le hajj. Là, quand tu vas faire ton hajj, est-ce que tu vas renouveler à chaque fois ton intention? Quand tu vas aller le 8e jour à Mina, le 9e jour tu vas aller à Mina encore, et que tu vas aller à... Ensuite tu vas aller à Arafat, pardon. Ensuite tu vas aller à Muzdalifa. Est-ce que lorsque tu vas aller à Arafat, tu vas renouveler « Me voici, ou Allah avec » pour le hajj? Est-ce que tu vas renouveler ton intention? Est-ce qu'à chaque fois tu vas pas renouveler ton intention? Ton intention, normalement, elle doit être constante, toujours pour Allah Azza wa Jal. Que tu fais ton hajj sincèrement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu veux te rapprocher d'Allah, afin qu'il te protège, et que tu sais que tu vas faire un hajj, que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Donc là, quand tu vas aller à Arafat, est-ce que tu vas refaire « Labbaik Allahumma bihajj » ou « Allah me voici pour le hajj » Lorsque tu vas aller ensuite le soir à Muzdalifa, tu vas dire « Oh Allah me voici pour le hajj » Lorsque le lendemain matin, tu vas aller faire, ça dépend le cheminement que vous utilisez, soit tu vas aller faire tawaf, après c'est-à-dire tu vas tourner autour de la Kaaba, après tu vas faire les sept allées entre Safa et Marwa, ou bien que tu vas aller ensuite à Mina pour jeter les pierres. Est-ce qu'à chaque fois tu vas renouveler ton attention? Non, pourquoi? Parce que c'est une adoration « Mustaqillah ». C'est-à-dire que c'est une adoration qui est, elle est indépendante. C'est-à-dire que chaque adoration, elle fait partie du hajj, tout comme ton ramadan. Lorsque tu jeûnes, tous tes jours, ils sont mustaqil. C'est-à-dire que tu vas jeûner un mois. Maintenant, la condition, c'est quoi? C'est que idha marida al-insan. Si la personne, elle tombe malade et qu'elle ne peut pas jeûner, ou que la femme a ses règles, ou il lui est interdit de jeûner, il faut qu'elle renouvelle ensuite l'intention. Voilà, c'est quoi la condition. La condition, c'est que si tu mets une seule intention au début du jeûne, c'est qu'ensuite, lorsque tu vas continuer ton jeûne et que tu t'arrêtes de jeûner un jour parce que tu as une cause, comme par exemple le fait de tomber malade, ou qu'une femme a ses règles, ou qu'elle est célochie, ou que tu es en état de voyage, il faut qu'ensuite, lorsque tu reprends ton jeûne, tu remettes une intention.
وأما النفل قال المؤلف رحمه الله وأما النفل فيجوز نية من النهار.
En ce qui concerne le jeûne qui est surérogatoire, comme par exemple une personne, elle veut jeûner le lundi. Là, il est préférable pour elle de jeûner. Maintenant, si elle, le matin, elle n'a pas mis l'intention la nuit, est-ce qu'on a le droit de jeûner ou on n'a pas le droit de jeûner? Les hadiths expliquent que la personne qui se lève le matin, par exemple à 10h du matin, elle se réveille, elle a fait soupe, elle dort, après elle se réveille. Est-ce qu'elle a le droit de jeûner même si elle n'avait pas mis l'intention la nuit? En ce qui concerne ce sujet, les ulama ont dit oui, elle a le droit de jeûner, même si elle n'a pas mis d'intention la nuit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois est parti chez Aïcha, et il a demandé à Aïcha, est-ce que tu as de la nourriture? Elle a dit non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمْ. Je suis donc jeûneur. Et dans une autre fois, il est parti chez Aïcha, radiallahu anha, il a dit, est-ce que tu as de la nourriture? Elle a dit oui. Et ensuite, il a mangé. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il est autorisé de mettre l'intention pendant la journée, pour la personne qui n'avait pas mis l'intention la nuit, pour un jeûne qui est surérogatoire, non pas pour un jeûne qui est obligatoire. Voilà quelle est la différence.
أن صيام النفل يجوز أن ينويه أثناء النهار ولا يجب تبييته من الليل.
Pour un jeûne qui est surérogatoire, il est autorisé de mettre l'intention pendant la journée et il n'est pas obligé de mettre l'intention pendant la nuit. Les hadiths, par rapport au hadith de Aïcha, que l'on vient de citer précédemment. Et les ulama ont dit par rapport à ça, ils ont énoncé deux conditions pour que tu puisses jeûner. La première, al-awwal, an la yakuna qad akala fi awwal nahar. Il ne faut pas qu'il ait mangé avant qu'il veuille jeûner. C'est-à-dire qu'à 10h, à 9h du matin, il ne faut pas que tu aies mangé pour qu'ensuite tu puisses jeûner. Non, il ne faut pas que tu aies mangé pour que tu puisses jeûner.
وثاني أن يكون ما بقي من النهار أكثر مما مضى.
Il ne faut pas que ce qui va rester le temps de jeûne qu'il va te rester à jeûner, il ne faut pas qu'il soit plus petit que le temps que tu n'as pas jeûné, ou le temps où tu auras mis ton attention. À partir du moment où tu auras mis ton attention, ne doit pas être plus petit que le temps où tu n'avais pas d'intention. C'est-à-dire que si par exemple le soupe il est à 6h et le maghrib il est à 18h, il ne faut pas que tu mettes ton attention après midi, d'après la parole du cheikh. D'après la parole du cheikh, il ne faut pas que tu mettes ton attention après midi. Si tu la mets avant midi, ton jeûne sera valide et sera accepté. Mais il faut que tu saches que ton jeûne, les récompenses de ton jeûne seront à partir du moment où tu auras mis ton attention. C'est pas tu seras récompensé à partir du fajr. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas mis d'intention.
نستمر بقية يعني. أردنا نشوف المسافر. أيوة نشوف. طيب.
Ensuite le cheikh a expliqué et a dit صيام المريض والمسافر. صيام المريض والمسافر. قوله رحمه الله تعالى الشيخ سعدي. Cheikh Saadi, qui était quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour notre religion. On demande à Allah Azzawajal qu'il le protège des châtiments de l'enfer et qu'il lui fasse miséricorde. Rahimahullah ta'ala.
Qawluhu wal marid, alladhi yatadarraru bi sawm wal musafiru lahuma al fitru wa sawm. Fa'idha qala al marid, ana yadurruni al sawm, walakinnani sawfa ahtamiru wa asbiru ala al darar, jaza lahum dhalik, wa in kana الأفضل وإن كان الأفضل له أن يأخذ برخصة الله تبارك وتعالى.
Donc en ce qui concerne la personne qui est malade, si elle dit le jeûne يضرني, ça me fait du mal, mais je peux supporter ce mal là, واصبروا على الضرر جاز لهم ذلك الجند وإن كان الأفضل له أن يأخذ برخصة الله تبارك وتعالى bien que le, la chose qui est mieux pour elle c'est qu'elle prenne la, la, la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et une rukhsa c'est une autorisation khas, particulière après une interdiction il est interdit aux musulmans de manger pendant le ramadan mais là il est autorisé parce qu'elle est malade parce qu'elle est malade et les ulama ont expliqué et ont dit que la personne qui est malade se divise en trois catégories se divise en trois catégories la première des catégories أن يكون أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا عكس يكون وهنا يكون صوم ويكون هنا الصوم أبدل له donc là il n'a pas d'avantage que ce soit de jeûner ou que ce soit de ne pas jeûner ou plutôt excusez-moi أن لا يتأثر بالصوم مثل الزكام والصداع donc la première des catégories En ce qui concerne le malade, c'est la personne qui ne sera pas affectée, ou plutôt qui sera, ça ne va pas lui faire du mal, le fait de jeûner. Ça ne va pas lui aggraver sa maladie, ou ça ne veut pas repousser sa guérison. Comme la personne qui a par exemple des maux de tête, ou qui a une toux. Cette personne-là, si elle jeûne, ça ne va pas avoir un gros effet sur son jeûne. Au contraire, elle peut patienter, Inch'Allah. Et là, il lui est obligatoire. Il lui est obligatoire de jeûner. Si elle a une toux, ou bien si elle a, elle a mal au nez, ou bien si elle a, elle a mal à la tête. Et la base de tout ça, c'est la parole où Allah Jalla wa Ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا Celui qui d'entre vous est malade, أو على سَفَرٍ ou qui est en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Il devra rattraper un jour. Il devra rattraper un jour. La deuxième catégorie des personnes, c'est la personne qui إذا كان يشق عليه ولا يضره يكره عليه أن يصوم. Si la personne rencontre des difficultés à jeûner lorsqu'elle est malade, mais ça ne lui fait pas de mal, mais ça ne lui fait pas de mal, dans ce cas-là, il est détestable pour elle qu'elle jeûne. Mais il lui est autorisé de jeûner. Et si elle jeûne, son jeûne est accepté. Son jeûne est accepté. Et la troisième des catégories, parmi les catégories des personnes qui sont malades, أن يشق عليه لصوم ويضره يعني الصوم يضره المريض ويشق ويشق عليه هذا الصوم مثل من مرض بالكلى أو السكر la personne qui rencontre des difficultés et qui ensuite en plus ça lui fait du mal c'est-à-dire que ça repousse sa maladie ça repousse sa guérison Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تقتلوا أنفسكم ne tuez pas vos propres personnes ne tuez pas vos propres personnes et Amr ibn al-As radiyallahu anhu lorsqu'un sahabi était en état de janaba, était en état d'impureté majeure, un sahabi a fait l'imam, et il a fait tayammum. Lorsque les autres lui ont demandé, ou lorsqu'ils sont, ils sont ensuite partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn al-As radiallahu anhu, le prophète sallam lui a posé la question, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait tayammum, sachant que tu as fait, que tu devais faire, tu étais en état d'impureté majeure. Et le sahabi a dit quoi ? وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ Et ne tuez pas vos propres personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Ce qui prouve que si une personne sait que une chose, comme le fait de faire les ablutions, lorsque la personne a vraiment froid, et qu'elle a que de l'eau qui est froide, là il est autorisé de faire tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Et là, c'est exactement la même chose pour la personne qui est en état de maladie. Si elle est malade et que ça lui donne des difficultés, la maladie lui donne des difficultés, et en plus ça lui fait du mal, cette personne-là ne doit pas jeûner. Et il lui est interdit de jeûner. cette personne-là ne doit pas jeûner. C'est clair ? La différence entre le deuxième cas et le troisième cas. Le deuxième cas, ça lui donne des difficultés de jeûner, mais ça ne lui fait pas de mal. Et le troisième cas, c'est la personne à qui c'est difficile pour elle de jeûner, mais ça lui fait du mal en même temps. Cette personne-là, il est haram, c'est interdit pour elle de jeûner. C'est interdit pour elle de jeûner. Parce que l'islam, l'islam il est venu pour protéger la personne de la santé de la personne, siha, parmi maqasid de sharia, parmi les choses qui sont le but de cette religion, c'est le fait de protéger la personne, le fait de protéger sa personne. Si toi tu es malade, pourquoi est-ce que tu vas... Allah Azza wa Jalla dit « Yuridu Allahu bikum al-yusr » Allah veut pour vous la facilité. « Wala yuridu bikum al-usr » Il ne vous veut pas la difficulté. Pourquoi est-ce que tu vas jeûner alors que tu es malade? Allah Azza wa Jalla t'a donné une facilité, prends-la. Le Nabi Sassam il a dit « Alaykum bi rukhasillah » Prenez les facilités que Allah Azza wa Jalla vous a données. Et Allah, il aime qu'on prenne ces facilités comme il déteste qu'on fasse ce qu'il nous a interdit. Ça, c'était en ce qui concernait le malade. Maintenant, al-musafir. Al-musafir, lahu al-fitr. Wa sawmu fa'idha qal, ana sawfa asumu ma'a al-mashaqqah. Walakinni sawfa asbiru alayha, wa atahammalu al-mashaqqata lil-ajr. Jaza lahu dhalik, walakin al-akhda bi-ruhsati afdal. Donc le voyageur, il lui est autorisé de manger lorsqu'il est en état de jeûne, par rapport au verset où Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens des versets, et s'il y en a parmi vous, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ Et si parmi vous, il y en a qui sont malades ou qui sont en voyage, il devra rattraper un jeûne, un jour de jeûne, s'il ne jeûne pas. Donc le voyageur, il lui est autorisé de jeûner. Par rapport au hadith aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez la facilité qu'Allah vous donne. Et dans un autre hadith où il dit, prenez, Allah aime qu'on prenne les facilités qu'il nous a données, les autorisations, excusez-moi. Allah aime qu'on prenne les autorisations qu'il nous a données, comme il déteste que l'on fasse ou qu'on commette des péchés. Donc le voyageur se divise en trois aussi. Le voyageur se divise en trois. Allah yakuna li sawmihi maziyatun ala fitrihi wa la aks. Huna as-sawmu afdal lah. C'est-à-dire que il n'y a pas d'avantage pour lui qu'il s'arrête de jeûner ou bien qu'il jeûne. C'est-à-dire que la personne elle va par exemple en Algérie. Une personne qui va en Algérie, elle part de Orly, elle va à Alger. Elle prend 2 heures. Est-ce qu'elle va rencontrer, elle va pas rencontrer de difficultés si en plus elle est en bonne santé et qu'elle est jeune. Donc pour lui, il est mieux de jeûner. Pourquoi? Parce que comme ça, elle aura plus de force pour jeûner, parce que si elle jeûne après le ramadan, elle sera toute seule. Et en plus, pour que sa dhimma, c'est-à-dire que... La dhimma... Comment? Yani pour que, auprès d'Allah, elle soit plus rapidement... elle ait fait ce qu'Allah lui a ordonné plus rapidement. Donc cette personne-là, il est préférable pour elle qu'elle jeûne. Et après, on va voir les preuves par rapport à ça. Ensuite, الثاني, ألا يكون الصوم أرفق به هنا الفطر أفضل له. C'est-à-dire que pour lui, il est plus convenable de manger que de jeûner. Le premier, c'était يتساوى المصلحة. المصلحتان يتساويان. C'est-à-dire que les deux choses, les deux choses, elles sont celles qui valent. Ce qu'il mange ou qu'il ne mange pas, c'est exactement la même chose pour lui. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que il aura plus de facilité à voyager s'il mange. Ou plutôt que il aura plus de facilité à jeûner, oui, s'il mange. Et ça, il aura un petit peu de difficulté s'il ne mange pas. Comme une personne, si par exemple, elle va dans un pays d'Afrique où elle voyage en voiture avec une grosse chaleur. Là, elle aura peut-être des difficultés pour jeûner. Donc dans ce cas-là, il lui est préférable de manger. أن يشق عليه مشقة شديدة. هنا يحرم عليه الصيام. La troisième, c'est que celui qui va rencontrer de grosses difficultés, s'il jeûne. S'il jeûne, il va rencontrer de grosses difficultés. Lui, là, dans ce cas-là, il lui est interdit de jeûner. Dans ce cas-là, il lui est interdit de jeûner. وَجَاءَ وَفِيهِ عِدَّةٌ أَحَادِيثٌ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ذُلِلَ عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر في السفر rapporté par Bukhari. Lorsqu'un homme, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم, une fois il a vu une foule, il y a vu autour de cette foule là il y avait un homme qui était, et les compagnons étaient autour de lui quoi. C'était son ombre. Les compagnons faisaient ombre à cette personne-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mahada, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui jeûne. Pourtant cette personne-là avait eu de grosses difficultés pour jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. Le jeûne n'est pas un bien pendant le voyage. Le jeûne n'est pas un bien. Il ne fait pas partie du bien le fait de jeûner. Il ne fait pas partie du bien le fait de jeûner pendant le voyage. Donc cette personne-là, lorsqu'il a eu le milieu de la journée, elle a rencontré de grosses difficultés pour jeûner. Il était fatigué. Ensuite, ils l'ont mis en dessous un arbre afin qu'il soit en dessous une ombre. Et les gens le regardaient. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de bien dans le fait de jeûner pendant le voyage. Wa ma'a dhalik yajuz, mais il est autorisé de jeûner. Fa fi hadith Abi Darda, alladhi fi sahih, qala kunna fi safar fi harrin shadid, hatta anna ahadana la yad'a yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Donc une fois le prophète صلى الله عليه وسلم était en voyage d'après Abi Darda رضي الله عنه. Il est dans Sahih le Hadith Sahih Bukhari et Muslim. Et lorsqu'il était en voyage, ils ont rencontré de grosses difficultés. À cause de quoi? À cause de la chaleur. Ils ont rencontré de grosses difficultés jusqu'à que chacun d'entre eux posait sa main au-dessus de sa tête à cause de la grosse chaleur. Et il n'y avait aucune personne qui jeûnait sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu. فتحمل الصوم في هذا الحر الشديد طلبا للأجر فدل على أنه يجوز ولكن عند المشقة الفطرة أفضل. Et donc on voit que ils ont supporté la grosse difficulté, ils auront la grosse difficulté qui était causée par la grosse chaleur. Pourquoi? Par espoir de la récompense d'Allah Jalla wa'ala. Ceci prouve donc qu'il est autorisé de jeûner si la personne a de grosses difficultés, mais qu'il lui est préférable pour elle de ne pas jeûner. Donc, on voit quoi? Que la personne qui est en état de jeûne, soit elle a aucun avantage, c'est-à-dire que qu'elle jeûne ou qu'elle jeûne pas, ça sera exactement la même chose pour elle. Là, il est préférable à elle de jeûner. Si maintenant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné avec Abdullah ibn Rawaha, et dans un autre hadith, les compagnons ont dit, on était en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun d'entre nous qui disait, ma kana ahaduna ya'ib al-akhar. Il n'y avait pas, ceux qui jeûnaient ne critiquaient pas ceux qui ne jeûnaient pas, et ceux qui ne jeûnaient pas ne critiquaient pas ceux qui jeûnaient. Il est donc autorisé pour la personne qui, ou qu'elle jeûne ou qu'elle ne jeûne pas, ce sera exactement la même chose pour elle, de jeûner. Il lui est préférable de jeûner même. Ensuite, pour la personne qui va rencontrer de petites difficultés, là, ou plutôt la personne qui sera plus utile pour elle de ne pas jeûner, qui sera plus utile pour elle de manger, ou ce sera pour elle beaucoup plus convenable pour elle de manger. Là, il lui est préférable de ne pas manger, ou plutôt de ne pas jeûner, pardon. Il lui est préférable de manger. Et la troisième catégorie de personnes, c'est la personne qui va rencontrer de grosses difficultés, comme le compagnon qui était tombé de sa monture, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa min al-birr as-sawmu fi safar » Il n'y a pas de bien dans le fait de jeûner pendant le voyage. Donc là, on a vu que la personne qui est en état de voyage se divise en trois, comme la personne qui est en état de maladie se divise en trois. Ensuite, il reste une quatrième catégorie de personnes qui est malade, c'est la personne qui, à qui on n'a pas de la personne à qui on n'a pas d'espoir. La yuruja burhu, on n'a pas d'espoir en sa guérison. Et ça, c'est un autre cas qui va venir après, inshallah ta'ala. Et que ce soit la personne qui soit en voyage ou qui soit malade, c'est deux catégories de personnes, à part la personne qui, ou à qui on n'a pas espoir en sa guérison, toutes ces personnes-là, les trois catégories de malades et les trois catégories de personnes qui sont en état de voyage, ces six personnes-là devront, s'ils mangent pendant le ramadan, après le ramadan, rattraper un jour. Après le ramadan, rattraper un jour. Maintenant, il lui est préférable qu'il rattrape son jour, que ce soit la personne qui a ses règles, ou qui a ses léchis, ou qui soit malade, ou qui est une cause, qui soit légiférée afin de ne pas jeûner, il lui est préférable de rattraper son jeûne avant de jeûner les six jours de Shawwal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le ramadan et qui suit par six jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. C'est comme s'il a jeûné toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il aura jeûné 30 jours ou 29 jours, plus 6, et les hasanats se multiplient par 10. Donc 30 fois 10 plus 6 fois 10, ça fait, ou plutôt 30 fois 10, ça fera 300 jours. Et dans l'année, ça fait à peu près 300 jours dans le calendrier lunaire. Maintenant, on expliquait, ou plutôt ce que l'on voulait expliquer à partir de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le ramadan et qui les suit par 6 jours de Shawwal, il aura telle récompense. Là, c'est quoi? C'est s'il a jeûné le ramadan. Maintenant, si toi tu jeûnes le ramadan et qu'ensuite tu suis par 6 jours de Shawwal et que tu n'as pas rattrapé ton jour, tu n'auras pas jeûné tout le ramadan. Donc, certains ulama ont dit que tu ne rentreras pas dans le hadith. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Est-ce que le cours était clair? Tout le monde a tout compris? Tout le monde a tout compris, hein? Inch'Allah. C'est-à-dire, si on pose des questions, les gens répondent. Hein? Normalement. C'est-à-dire, ouais. Celui qui ne mange pas le matin, monsieur,
oui.
S'il se réveille pas. S'il ne se réveille pas parce qu'il n'a pas fait exprès, ou bien il ne va pas envie de se réveiller. Ben son jeûne, il est accepté.
C'est bon.
C'est bon, mais il a perdu quelque chose. Parce que le prophète, il a dit, dans le manger du matin, il y a une bénédiction. Baraka. Vous voyez? Celui qui ne mange pas le matin, il a perdu quelque chose. Tafutu alayhi shay. Il aura perdu quelque chose qui est al-baraka. En plus, ça va lui donner de la force pour son jeûne. Et il y aura la baraka dans sa journée, Inch'Allah. Oui. Allah Azza wa Jalla dit « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » On ne vous a pas mis de difficultés dans votre religion. Yassiru wa la tu'assiru, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Fattakullaha mastata'tum, craignez Allah comme vous pouvez. Maintenant, toi, tu prends une date le matin, par exemple. T'as mangé, baraka, inshallah. S'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas faim, il mange une date. Comme ça, il aura la baraka, inshallah. Il rentrera dans le hadith. Vous voyez ? De rien, monsieur. Voilà. Donc, le malade, on a dit, le malade, s'il est gravement malade, il doit jeûner ou pas, monsieur ? Allah, il sait. Allah, il sait. Allah, il sait ce qu'il est malade ou pas. Maintenant, s'il est malade, il est gravement malade. Est-ce qu'il doit jeûner ou pas? Il ne fait pas le ramadan. C'est vrai ou pas? Quelqu'un, il a mal à la tête. Lui, il fait le ramadan. Hein? C'est vrai? Maintenant, si le musulman, si une personne, elle se convertit pendant le ramadan, le matin, ou par exemple à 14h, elle doit faire quoi? Le monsieur là-bas, là. Parce que tout le monde a tout compris. S'il se convertit à 2h, il fait le jeûne ou pas après? Jusqu'au Maghreb. Hein? Voilà. Parce que, الآن, هو مكلف. Maintenant, il est مكلف. مع أن الإنسان الكافر. أو لا نذكر المسألة أحسن. Hein? Il doit jeûner. Mais est-ce qu'il doit rattraper après le jour? Non, voilà. Parce qu'il était... Voilà. Non, toi, tu t'es échappé. Tu t'es échappé. Tu t'es échappé. Quelqu'un, il s'évanouit pendant toute la journée. Et son jeûne, il est accepté ou pas? Est-ce qu'il doit rattraper? Tu sais, vous savez, hein? Il doit rattraper. Ou il passe avec un... يعني نعم ولكن غير العاقل لا يجب عليه القضاء فهمت مثلا الشيخ ابن عثيمين il a expliqué il a dit et tout ce que je vous ai dit c'est soit Ibn Taymiyyah soit Sheikh l'Islam soit l'auteur du livre le commentateur le Sheikh ibn Athaymin il a expliqué une chose très importante il a dit les gens de nos jours ils veulent faire talab al-ilm ils veulent faire quoi talab al-ilm ils veulent étudier mais ils n'ont pas de stylo. Il vient au cours, si tu lui poses des cours, des questions au prochain cours, et ça c'est un conseil à moi le premier. Moi, après je vais vous expliquer pourquoi après. Il vient au cours, il n'a pas de stylo, il n'a pas de feuille. Comment voulez-vous? C'est Sheikh l'Islam, lui, il peut apprendre tout par cœur, direct. As-salaf, les anciens, quand tu regardes les conditions pour que le hadith il soit authentique, quand tu étudies ce sujet-là, il faut adopter, dire que la personne, elle est mémorisée par cœur le hadith, soit mémorisée abdat al-qalb, c'est-à-dire avec le cœur, elle le connaisse par cœur, soit elle l'a écrit. Même les salafs, les plus prédécesseurs, ils écrivaient. Que dire de nous? Deuxièmement, il a fait une comparaison avec qui? Le médecin. Est-ce qu'il va faire une chirurgie médicale sans le scalpel? Il peut pas. Médecin, il peut pas faire, le dentiste, il peut pas casser une dent s'il n'y a pas le truc. À quelqu'un, il apprend. Est-ce qu'il peut apprendre son stylo une feuille? Vous voyez? Et la meilleure façon d'apprendre, et ça c'est un de mes professeurs, il nous avait appris, celui qui nous avait enseigné cette matière-là, qu'Allah le protège et lui facilite, et le récompense, et lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les frères qui nous ont appris, ou à tous les frères qui font da'wah, ou à tous les musulmans, inshallah. Il nous avait dit, parce que nous, on venait, moi le premier, avec les dictaphones au cours. On venait au cours avec les dictaphones. Il a dit, c'est pas comme ça qu'on a appris, les frères. Nous, c'est pas comme ça qu'on a appris. On a appris quoi? Le papier et la feuille. C'est écrit. Et la meilleure façon d'apprendre une chose, quand tu vois, par exemple, en Algérie, en Afrique, au Mali, au Sénégal, ceux qui apprennent le Coran, ils apprennent avec l'ouha, avec la planche. Ils écrivent. Et c'est eux qui connaissent le Coran le mieux. Quand tu prends le Coran, tu l'apprends avec les feuilles, avec le mushaf en lui-même. Tu verras que l'apprentissage de la personne avec la planche qui aura écrit le Coran, il sera beaucoup plus fort que l'apprentissage de la personne qui prend un livre. Et ils nous disent, la meilleure façon d'apprendre, c'est que tu écris. Et un autre prof, il nous avait dit, la meilleure façon de réviser un cours, c'est que tu prennes un frère qui est avec toi au cours. Et celui qui nous avait dit ça, c'est Ahmed, un prof, celui qui a fait Tuhfat al-Wasabiyya. Peut-être que tu connais. Le Sharh al-Ajrumiyya. Il est jaune, le livre. Peut-être que ceux de qui l'ont vu. Le Sharh que les frères, ils ont là, le jaune là. Tu vois peut-être. Sharh al-Ajrumiyya, Tuhfat al-Wasabiyya. Ahmed ibn Thabit. À la kulli hal. Ce prof-là, il nous avait dit quoi? Il nous avait dit, tu prends ton ami, avec une personne avec qui tu peux réviser, après le cours, juste après, tu révises avec lui. Et Cheikh Salah al-Sheikh, il a dit, dans Talab al-Ilm, il n'y a pas beaucoup d'amis. Il y a la fraternité en islam. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعَدُهُمَا أُولِيَاءُ بَعَدُ Les croyants et les croyantes sont entre eux alliés. Ils s'aiment entre eux. Comme l'expliquait Cheikh al-Islam, la base de l'alliance, c'est l'amour. Ils s'aiment entre eux, ils font des doigts. Tu fais doigts pour ton frère. Lorsqu'il n'est pas là, les anges disent Amin. Et à toi aussi. Tu fais des doigts pour tes frères. Tu demandes à Allah qu'il lui facilite, qu'il lui donne la guérison. Tu fais doigts pour la Umma, pour la communauté. Et dis Cheikh Salah al-Sheikh, dans Talab al-Ilm, il n'y a pas de copains. Tu prends ton copain et tu révises avec lui. Tu lui récites ce que tu as appris. Vous vous posez des questions. Toi, tu essayes de l'induire en erreur. Comme ça, après, il ne sera pas induit en erreur. C'est comme ça que tu étudies. Et surtout, ce qui est important, c'est le stylo et la feuille. Parce que, on pose des questions, tout le monde y va répondre là. Mais est-ce que, après, plus tard, parce que ça, c'est des choses qui nous servent dans toute notre vie. Imaginez-vous, on a tous des parents, on a tous de la famille, des personnes qui sont âgées dans notre famille. Eh bien, il nous dit, excuse-moi, je suis malade, comment il faut que je fasse? Comment on va faire? Alors que c'est pour Allah, bien sûr, qu'on fait ça. Mais, c'est des choses qui sont, excusez-moi, qui sont pour nous, dans notre quotidien. La maladie, le voyage. Ah, faut que je voyage là. Comment est-ce que je fais? C'est pour ça que c'est important d'apprendre sa religion. Allah, Jalla wa Ala, il a dit dans le Coran, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Et dis, ô Muhammad, dis, ô Seigneur, rajoute-moi de la science. Et comme l'expliquait Ibn Rajab, Allah, il n'y a pas une chose qu'Allah, il a dit à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de demander à Allah de lui rajouter, sauf la science. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ L'apprentissage de la religion, elle est obligatoire pour chaque musulman. Tu fais le jeûne, tu es obligé d'apprendre. C'est quoi le jeûne? Tu fais salat, tu es obligé de savoir comment tu fais salat. Tu fais le wudu, tu sais, il faut que tu apprennes à faire le wudu. Tu vas faire le hajj, tu as les conditions, tu es obligé. Tu vas faire zakat. Maintenant, celui qui est pas, qui rentre pas dans les conditions de faire le hajj, il n'est pas obligé de faire. Ça devient fard kifaya, hein. Une obligation pour la communauté. C'est-à-dire que si une partie de la communauté le fait, le reste, ils ne sont pas obligés de le faire. C'est pour ça que c'est important d'apprendre sa religion. Et l'apprentissage de sa religion, ça fait partie des choses qui vont plus se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Surtout la connaissance d'Allah et de ses noms et de ses attributs. Parce que quand tu vas savoir qu'Allah, il voit tout, il entend tout, lorsque tu voudras faire quelque chose de haram, tu sais qu'Allah, il te voit. C'est vrai ou pas, monsieur? Allah, il te voit. Pourquoi tu vas voler? Mais comment tu sais? C'est en étudiant cette matière-là, al-asma wa sifat. Comme l'expliquait Ibn Qayyim, une des choses qui va faire que ta foi va augmenter le plus, c'est justement le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Une des choses qui va augmenter ta foi, c'est le fait de regarder comment Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre. Le fait de regarder la création d'Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Et il y a dans les cieux, il y a dans la terre, il y a dans la terre des signes. Et dans votre propre personne, ne regardez-vous donc pas. Quand tu regardes comment Allah t'a créé, comment Allah il a créé la femme, comment Allah il a créé les cieux et la terre, tu vois la qudra d'Allah Azza wa Jal, tu vois sa puissance, tu vois comment il est puissant. Tu vois comment il a créé parfaitement toute chose. Mais tu vois que l'homme, il est faible. Et que sans Allah Azza wa Jal, il ne peut rien du tout. Et la troisième chose, parmi les choses qui vont faire que ta foi augmente, c'est le fait de faire des bonnes actions. Parce que la définition de la foi, c'est quoi? À la fin, c'est elle augmente avec les bonnes actions. Et elle diminue avec les mauvaises actions. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Et lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, leur foi augmente. Leur foi, elle augmente. Donc la foi, elle augmente avec les bonnes actions, et elle diminue avec les mauvaises actions. Et là, on est dans un mois où justement, il faut qu'on essaye de faire le plus de bonnes actions pour se rapprocher d'Allah. C'est dur, hein? Mais Inch'Allah, Allah, il va faciliter. Et shaitan, il est faible. Inna kayla shaitan, da'ifa. Et il faut le courage. Allah, il va aider, Inch'Allah. Parce que c'est Allah qui est. Fasta'in billah. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'ant fasta'in billah. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu veux demander le secours, demande-le à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il va t'aider, Inch'Allah. Wa ila huna wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.